Imaginons un instant une scène assez classique finalement, le prix de la viande chez le boucher du quartier qui s'envole soudainement, genre du jour au lendemain.
Ouais, la mauvaise surprise du matin.
C'est ça. Et pourtant, il n'y a pas eu de sécheresse locale, les camions de livraison roulent tout à fait normalement, aucune pénurie dans les élevages du coin.
Un lien de logique sur le papier, en fait.
Exactement. Et la vraie raison de cette flambée, à des milliers de kilomètres de là, deux nations étrangères ont juste commencé à faire circuler des rumeurs sur un potentiel conflit politique.
C'est fou quand on y pense. C'est une situation qui semble complètement absurde.
Presque irréelle, ouais. Et pourtant, c'est la réalité économique brute que subissent énormément de pays. Du coup, aujourd'hui, pour notre exploration, on va se concentrer sur un pays qui a décidé que... c'était bon, il en avait assez de cette dynamique.
Tout à fait. Et on va s'appuyer pour ça sur une édition vraiment fascinante de la publication Eco-Business, qui date du 16 mars 2026.
Une super source.
Ah oui, très riche. Et notre mission aujourd'hui, ça va être de décoder la métamorphose d'une nation en pleine mutation, le Maroc. On va voir comment un pays qui était historiquement super vulnérable aux chocs mondiaux est carrément en train de pirater son propre modèle économique.
Pirater, c'est le mot juste.
Pour devenir une puissance à la fois industrielle et verte. Voilà, c'est toute la question de la souveraineté moderne, en fait. Et pour ceux qui nous écoutent, on ne va pas juste balancer des statistiques ennuyeuses ou faire un catalogue de projets.
Ah non, surtout pas.
L'idée, c'est vraiment de comprendre la mécanique interne de cette transformation, de voir comment une vulnérabilité de départ face au prix du pétrole, ça déclenche une énorme réaction en chaîne.
Une réaction qui aboutit à des méga-usines, des parcs solaires géants.
Exactement, et à une refonte totale de leurs ressources maritimes aussi. Tout est hyper interconnecté par une logique de cause à effet qu'on va détailler.
D'accord. Alors, décortiquons ça par le commencement, c'est-à-dire cette fameuse fragilité de départ.
Le nerf de la guerre.
Voilà. Les données de notre source montrent que le baril de pétrole a récemment bondi de près de 20% en une seule journée.
20%, c'est violent pour une économie.
C'est énorme. Et le plus frappant, c'est que ce pic n'est pas du tout justifié par un problème d'offre ou de demande physique. C'est uniquement alimenté par des rumeurs politiques sur la fin potentielle d'un conflit.
De la pure spéculation, quoi.
Mais oui. Pour un pays qui importe massivement son énergie, c'est un choc monumental. C'est un peu comme si le marché pétrolier mondial, c'était un thermostat cassé dans la maison de notre audience.
C'est une bonne image, ça.
Tu vois, la température de ton salon, elle change pas parce qu'il fait froid dehors. Elle monte brusquement à 40 degrés juste parce que tes voisins d'en face se disputent.
Ah, c'est exactement ça. L'image du thermostat dysfonctionnel, ça illustre parfaitement le problème de la dépendance externe. Et les chiffres d'Ecobusiness montrent bien à quel point ces conséquences macroéconomiques, elles sont violentes.
Ouais, les fameuses prévisions de croissance.
C'est ça. Avant cette flambée spéculative, les prévisions de croissance pour le Maroc en 2026, elles étaient super solides. On estimait ça entre 4,5 et 4,9%.
Ce qui est très bon.
Très bon, oui. Sauf que, avec un baril qui s'obstine à rester au-dessus des 100 $, la mécanique s'enraye. Ces projections, elles risquent de chuter entre 3,8 et 4,1%.
Aïe, ça fait mal.
Et en parallèle, l'inflation globale pourrait installer durablement entre 4,5 et 5,5%. Donc ça vient amputer directement le pouvoir d'achat quotidien des gens.
Et justement, la mécanique de l'inflation, elle s'arrête pas au simple coût d'importation. Il y a un truc, un phénomène psychologique sur les marchés locaux.
Ah oui, le fameux effet d'aubaine.
C'est ce que l'article qualifie d'inflation opportuniste. Et c'est là que l'exemple de la viande pendant le mois de Ramadan, dont on parlait au début, prend tout son sens. On voit des commerçants qui changent leurs étiquettes, ils augmentent les prix en disant « c'est le pétrole, ma petite dame », alors que leurs coûts logistiques n'ont pas encore bougé d'un seul centime.
Le mécanisme derrière ça, il est aussi vieux que le commerce lui-même. C'est l'asymétrie d'information.
C'est-à-dire ?
Dès qu'un événement géopolitique majeur fait les gros titres, ça crée un espèce d'écran de fumée. Certains acteurs de la distribution, ils anticipent les hausses futures ou ils utilisent juste le climat d'anxiété générale pour gonfler leurs marges là, tout de suite.
Et c'est le consommateur final qui trinque.
Toujours. Il paye le prix fort non pas pour une augmentation réelle du transport, mais juste pour la spéculation ambiante.
C'est fou. C'est ce qu'on pourrait appeler la négociation de la croissance baril par baril. C'est intenable sur le long terme.
Complètement intenable.
Mais du coup, au lieu de continuer à subir ce chantage extérieur, la stratégie marocaine, c'est littéralement de débrancher ce fameux thermostat cassé pour construire son propre système du chauffage. L'antidote à cette inflation importée, c'est la souveraineté énergétique.
Et la matérialisation physique de cette souveraineté, c'est l'accélération vraiment foudroyante du programme Nord-Atlas.
Ah, ce projet est dingue.
Oui, Riti, les sources détaillent le lancement simultané, je dis bien simultané, de 6 nouvelles centrales solaires photovoltaïques. C'est pas juste un projet centralisé dans un coin.
C'est tout un réseau.
Exactement, c'est un maillage du territoire. Il y a des installations prévues à Ain-Benimata, Boudnib, Boanan, Anjil, Tata et Outat El Hadj. L'ajout de capacité, c'est 305 mégawatts.
305 mégawatts. Et au-delà de ce chiffre, c'est l'objectif final qui est complètement stupéfiant. 90% d'autonomie énergétique visée d'ici 2035.
C'est dans mon 10 ans.
C'est demain, sachant qu'ils sont déjà à 46% de capacité électrique issue du renouvelable, avec un cap intermédiaire de plus de 52% d'ici 2030. Mais attends, comment ils financent et surtout, comment ils construisent ça aussi vite? L'article parle d'un acronyme technique, le modèle EPC.
Oui, utilisé par l'Office national de l'électricité et l'agence Mazen. Alors EPC, ça veut dire Engineering, Procurement and Construction. Donc ingénierie, approvisionnement et construction.
Ok, et pourquoi c'est si crucial ce modèle?
Pour comprendre, il faut regarder qui prend le risque. Dans un contrat classique, l'État gère les prestataires un par un. S'il y a un retard ou un surcoût, c'est l'État qui paye la facture.
Ce qui arrive littéralement tout le temps sur les chantiers publics.
Bah voilà. Alors que dans un modèle EPC, c'est un contrat clé en main. Le groupe privé qui gagne l'appel d'offres s'engage à livrer la centrale prête à fonctionner à une date précise et à un prix fixe.
Ah d'accord.
S'il y a un dépassement de budget pendant les travaux, c'est le constructeur qui absorbe la perte, pas l'État. Du coup, ça permet de déployer des infrastructures massivement et super rapidement parce que le risque financier est transféré au privé.
Et ça, forcément, ça rassure immédiatement les investisseurs internationaux.
Exactement.
Et justement, cette dynamique verte, elle agit comme un aimant à capitaux. J'ai lu dans la source que la BRD, donc la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a validé sa stratégie 2026-2030 avec un objectif de 150 milliards d'euros de financement vert.
150 milliards, oui.
C'est colossal. Et le Maroc est positionné comme un partenaire incontournable là-dedans, notamment parce qu'ils utilisent les obligations GSSS.
Alors, les obligations GSSS, pour préciser, c'est verte, sociale, durable et liée au développement durable. Et c'est pas juste un outil de communication ou du greenwashing.
Non, non.
Non, il faut comprendre comment fonctionnent les fonds d'investissement mondiaux aujourd'hui, genre les grands fonds de pension américains ou européens. Ces gens gèrent des milliards, mais ils ont maintenant des obligations légales très strictes.
Genre, ils sont obligés d'investir propre ?
C'est ça, ils doivent placer un certain pourcentage de leur portefeuille dans des projets qui respectent les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. En émettant ces fameuses obligations GSS certifiées, le Maroc met littéralement un entonnoir géant sous cette manne financière garantie.
Ah, c'est malin.
Très malin. Ils attirent des capitaux avec des taux d'intérêt souvent bien meilleurs, tout simplement parce que la demande mondiale pour ces produits verts dépasse largement l'offre.
Ce qui nous amène d'ailleurs à une question géopolitique assez brûlante. Parce que toute cette énergie propre, elle n'est pas juste destinée à allumer les lampadaires à Rabat.
Non, ça va bien plus loin.
Elle a une utilité industrielle directe face au fameux CBM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne.
Le fameux.
Pour faire très simple pour notre audience, l'Europe va lourdement taxer les produits importés s'ils sont fabriqués avec de l'énergie très polluante. Alors ma question pour toi, ce CBAM, est-ce que c'est une espèce de taxe punitive inventée par les pays riches pour bloquer l'ascension des pays émergents? Ou est-ce que c'est finalement le meilleur cheat code possible qui force l'industrie marocaine à se moderniser avant tous les autres?
L'expression cheat code, ça sous-entendrait qu'il y a une triche ou un petit raccourci facile.
Ouais, c'est vrai.
Je dirais plutôt que c'est un impératif de survie darwinien, le CBAM, c'est indéniablement une forme de protectionnisme environnemental de la part de l'Europe.
Claire et nette.
Si une usine au Maroc fabrique, disons, une portière de voiture avec de l'électricité qui vient d'une centrale au charbon, cette portière, elle sera surtaxée en arrivant en Europe. Elle sera plus du tout compétitive. Éthique à marche forcée, le Maroc fait pas juste de l'écologie pour faire joli. Il s'achète un laissez-passer douanier, en fait.
Ah ouais ? L'énergie devient un bouclier ?
Exactement. L'énergie solaire devient une arme géopolitique pour protéger ses parts de marché. Et ça permet de prendre de vitesse d'autres concurrents industriels, je pense à l'Asie notamment, qui dépendent encore massivement des énergies fossiles.
Du coup, l'énergie propre, c'est vraiment la condition sine qua non pour dominer les exportations.
Et les résultats sur le terrain, d'après les chiffres, ils sont implacables. Le Maroc est désormais le premier pays d'Afrique producteur et exportateur de biens de consommation.
Le premier ?
Ouais, c'est pas rien. Autrefois, le pays avait ce rôle ultra classique de l'économie en développement. Le fermier et le mineur, on exportait des oranges et des phosphates bruts.
La fameuse économie d'extraction.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, le pays est devenu le concepteur et l'assembleur. C'est la différence fondamentale entre vendre de la farine brute au kilo et vendre un gâteau de mariage à 3 étages avec un glaçage parfait.
J'adore la métaphore culinaire. Mais c'est vraiment ça. Au-delà du gâteau, ce qu'on observe, c'est une restructuration profonde de leur balance commerciale en capturant la valeur ajoutée.
C'est-à-dire ?
Historiquement, exporter des matières premières, ça te laisse complètement à la merci de la volatilité des marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, avec des pôles industriels comme Tanger et Kenitra, le Maroc exporte des centaines de milliers de véhicules par an.
Des voitures entières ?
Des voitures, de l'électronique de pointe, des composants aéronautiques. Et ils sont hyper forts dans la fast fashion. Et chaque étape de cette transformation, l'assemblage, l'ingénierie, le design, ça rajoute une marge bénéficiaire.
Une marge qui reste sur place.
C'est ça la clé. La marge reste dans le pays sous forme de salaire et de taxes, au lieu d'être captée par une usine étrangère de l'autre côté de la Méditerranée.
Et pour que cette grosse mécanique industrielle fonctionne, il faut une logistique irréprochable. Et là, on parle du rôle central du complexe portuaire de Tanger Med, qui est couplé aux Onques Franches. Les usines s'installent là parce qu'elles savent que leurs pièces peuvent partir dans le monde entier en un temps record.
Ah mais les zones franches, c'est le catalyseur de tout cet écosystème. Et tu sais, une zone franche, c'est pas juste « venez, vous paierez pas d'impôts ».
Ah ben non, s'il n'y a pas de route, tu fais rien.
C'est exactement ça. Si tu offres zéro impôt, mais que tes camions sont bourbes, personne ne vient. Le vrai succès, c'est de combiner une incitation fiscale temporaire avec des infrastructures physiques de classe mondiale.
Le port, l'autoroute, le train ?
Le port, le rail et surtout un accès garanti à cette fameuse énergie propre dont on parlait. Ça crée un environnement vraiment clé en main pour attirer le capital international.
Ce qui est fascinant, c'est que cette stratégie d'industrialisation, de montée en gamme, elle n'est pas du tout réservée au nord du pays ou aux produits high-tech.
Non, ça s'étend partout.
Le même principe chirurgical est appliqué aux ressources les plus traditionnelles du pays, tout au sud. Les sources nous emmènent dans la région de Dakhla, Oued et Dahab. Avec un plan d'investissement colossal, on part de 17,75 milliards de dirhams.
C'est un chiffre massif. Et il faut savoir que cette région, elle a une des façades maritimes les plus riches au monde en poissons pélagiques, donc les sardines, les maquereaux.
Le fameux or bleu.
Voilà. Sauf que, pendant des décennies, le modèle était purement extractif. On pêchait des volumes monstrueux, on congelait le poisson tel quel, en blanc, et on l'exportait en vrac vers d'autres continents.
En gros, on vendait la farine au lieu du gâteau, encore une fois.
Exactement le même schéma.
Mais du coup, en arrêtant de juste congeler ce poisson pour l'envoyer ailleurs, est-ce qu'ils ne sont pas en train de confisquer de manière pacifique, bien sûr, les marges énormes que les pays étrangers se faisaient sur leur dos depuis 50 ans.
Alors, le terme « confisquer », ça implique de prendre un truc qui appartient à quelqu'un d'autre. Moi, je dirais plutôt qu'ils mettent fin à une anomalie économique flagrante en rapatriant leur propre chaîne de valeur.
Oui, c'est plus juste dit comme ça.
Sur les 17,75 milliards d'investissements, il y a 1,2 milliard de dirhams qui est alloué spécifiquement à la création d'unités de transformation sur place.
Donc des conserveries, ce genre de choses, etc.
Des conserveries ultra modernes, des usines de production d'huile de poisson, de la farine de poisson haute qualité. Parce que le rendement économique d'une boîte de sardines qui est transformée, emballée et brandée localement, il est exponentiellement supérieur à un bloc de glace plein de poissons bruts.
Bah oui, c'est logique.
Et en plus, 2,8 milliards sont dédiés à l'aquaculture pour diversifier la production sans vider les océans.
D'ailleurs, la source précise qu'il y a déjà 6 nouvelles unités industrielles implantées à Dakhla. Et pour sortir tous ces produits finis, l'infrastructure suit le même modèle qu'au Nord. Ils injectent 160 millions de dirhams pour créer 2 immenses plateformes logistiques.
À Bir Gandouz et Guerguerat, oui.
C'est ça. 30 hectares chacune. C'est carrément une autoroute commerciale vers l'Afrique subsaharienne. Mais je me pose une question. Avec une telle industrialisation de la mer, comment ils évitent le piège de la surpêche ?
C'est le risque majeur, c'est clair. Et la parade, elle passe par la diplomatie environnementale. EcoBusiness explique que le pays a rejoint le projet international GMC2.
C'est l'ONU qui gère ça, non ?
mis sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une coalition avec des pays voisins comme la Mauritanie et le Sénégal. L'idée, c'est de gérer l'écosystème marin, non pas juste derrière ses propres frontières, mais à l'échelle de tout le grand courant des Canaries.
D'accord, on se parle entre voisins.
On partage les données scientifiques, on harmonise les quotas de pêche, tout ça pour garantir que la biomasse se renouvelle. C'est la condition vitale pour que ces nouvelles conserveries aient encore du poisson à traiter dans 20 ans.
Donc si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle géant, on a un pays qui verrouille ses coûts d'énergie avec des centrales solaires colossales,
oui,
qui sécurise ses exportations face aux taxes de l'Europe, qui bâtit une industrie de pointe au nord et qui rapatrie toute la chaîne de valeur de la pêche au sud.
C'est un alignement parfait.
Et l'effet secondaire de cette stabilité, c'est que le pays devient un coffre-fort super attractif pour les capitaux mondiaux qui cherchent de la prévisibilité. Ce qui nous amène à la preuve ultime de cette confiance, le béton.
Le béton. Ou plus précisément, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. C'est souvent le baromètre le plus fiable de l'attractivité d'un pays.
Ah oui ?
Ah oui. Les données révèlent que le Maroc est maintenant le deuxième pays de tout le continent africain pour les projets hôteliers. On parle de 75 hôtels et resorts en cours de développement.
75 hôtels, ça fait combien de chambres, ça ?
Ça représente plus de 10 600 chambres ajoutées, avec une moyenne de 141 chambres par établissement. Donc, on ne parle pas de petits gîtes isolés, hein.
Ah non, c'est des méga complexes.
Des complexes capables de soutenir une industrie touristique massive. D'ailleurs, avec l'Égypte, le Maroc concentre à lui seul plus de 45% des projets hôteliers de toute l'Afrique.
Les chiffres sont dingues. Mais il y a une stat dans la source qui m'a frappé encore plus fort. Plus de 64% de ces chambres sont déjà en phase de construction. C'est pas juste des projets théoriques sur des plaquettes en papier glacé ou des annonces vagues dans un salon. Les grues tournent, le béton est coulé.
Et la différence entre un projet annoncé et un projet en construction en économie, elle est fondamentale.
C'est clair.
Les capitaux privés, surtout dans l'hôtellerie internationale, ils ont une aversion absolue pour l'incertitude. Si un chantier est en cours, ça veut dire que l'argent est sécurisé, que les études sont validées. Les investisseurs parient littéralement des centaines de millions d'euros sur la stabilité politique et économique du pays à long terme. Et ce développement hôtelier, il se fait pas dans le vide.
Bah non, c'est la fameuse boucle causale, hein.
Exactement.
Les touristes arrivent dans des aéroports flambant neufs, ils prennent un TGV qui tourne avec l'énergie solaire de Nour Atlas, et le soir, ils mangent des produits de la mer transformés à Dakhla.
Le puzzle s'emboîte parfaitement. Au fil de cette exploration, on a vraiment vu comment une contrainte forte peut devenir un moteur d'innovation.
C'est passionnant.
Le point de départ, c'était une économie qui subissait les caprices du pétrole. Mais au lieu de rester passifs, ils ont utilisé cette vulnérabilité comme catalyseur. Accélération du solaire avec le modèle EPC, utilisation des obligations vertes pour capter la finance ESG, transformation de la menace du CBM en avantage compétitif redoutable et captation de la valeur ajoutée dans les océans.
C'est la démonstration éclatante qu'on ne peut pas comprendre l'économie moderne en regardant juste des secteurs de manière isolée. Tout est hyper lié.
Tout à fait.
Et ça soulève une pensée finale, qui va au-delà des simples chiffres de nos sourds du jour, mais qui mérite qu'on s'y attarde pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
On observe là une nation émergente qui pérate son propre modèle pour s'affranchir de sa dépendance. Si à l'avenir, de plus en plus de pays émergents arrivent à devenir totalement autonomes en énergie, grâce au soleil ou au vent, et qu'ils maîtrisent la transformation locale de leurs ressources sans avoir à exporter la matière brute à bas prix...
Ça change tout.
Ça change tout. Que reste-t-il aux superpuissances géopolitiques traditionnelles ? Si le thermostat d'un pays ne dépend plus des humeurs ou des conflits des pays voisins, ces superpuissances, elles sont pas en train de perdre, là, sous nos yeux, leur ultime levier de pression diplomatique et économique ?
C'est une excellente question. Ça rebat complètement les cartes.
C'est une perspective qui pourrait vraiment redéfinir l'équilibre du monde de demain. En tout cas, un immense merci à notre audience d'avoir plongé avec nous au cœur de cette mécanique économique complexe. Gardez toujours un œil sur les causes invisibles derrière les grands chiffres. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse.